Mathieu Verdet, ouvrier en bâtiment, est en pleine reconversion. Il a suivi une formation à l'école Créactive de Montauban, qui est une école multi-âge accueillant des enfants de 3 à 18 ans. Une structure associative privée, libre et démocratique, co-gérée par les membres, enfants et adultes de l'établissement. Cette école est basée sur le modèle américain Sudbury, fondé en 1968, une école alternative où les enfants construisent eux-mêmes leur programme et leur emploi du temps de manière autonome. Entretien avec Mathieu Verdet qui a décidé de créer une école basée sur ce modèle dans la Rajoie. Comment vous est venue cette idée de ce projet d'école alternative ?
Alors, c'est une idée qui m'est venue en retrouvant un ami à moi qu'on s'était pas vu depuis une vingtaine d'années. Et il m'a parlé de ça, il a aidé à l'ouverture de mon école formatrice à Montauban, donc l'école Créactive. Et en discutant, il m'a parlé de ce projet et ça m'a semblé vraiment, vraiment pertinent. Et puis il y a aussi le fait que moi je suis papa de 3 enfants et je me rends compte de leur scolarité. Donc ma grande, tout va bien, elle fait le tri elle-même, elle est autonome, tout va bien. Mon deuxième, il aurait besoin de ce concept qui est un peu basé justement sur l'autonomie, sur la créativité, la confiance en soi. Et la petite dernière qui a 4 ans, donc pour l'instant tout va bien.
C'est une philosophie particulière, ce projet, puisque ce serait plutôt les enfants qui proposeraient des projets et les encadrants mettraient tout en place pour donner à ces jeunes justement des connaissances, donc pour réaliser ces projets.
Oui,
finalement.
Alors c'est ça. Chaque début de semaine, il y a un conseil d'école qui permet aux enfants de soumettre leurs idées aux autres. C'est-à-dire de soumettre leurs projets sur quoi ils ont envie ou ils auraient envie de travailler cette semaine, ce mois-ci ou ce trimestre, peu importe, en fonction de la durée de l'événement. Et c'est validé ou pas en fonction des moyens de l'école. Et donc c'est vraiment basé sur l'envie de l'enfant. C'est-à-dire que tout enfant a des envies, aussi différentes soient-elles. Hein. Ça peut être des envies de nature, de sport, de culture générale, d'histoire, enfin peu importe. Et on est amené à construire des projets avec eux, à les amener à la finalité de ce projet. Alors réalisable ou non, hein, de toute façon tout est voté à égalité de voix, c'est-à-dire que la voix de l'enfant a la même valeur que la voix de l'adulte encadrant. Donc une voix égale un vote. Et donc si ce projet est validé, on y travaille et nous, facilitateurs d'apprentissage, on est amené à leur apporter tous les moyens nécessaires pour aller au bout de ce projet. Donc, alors on est bien aidé forcément par Internet maintenant, mais on a aussi des fiches partenaires qui sont créées avec des intervenants dans beaucoup de domaines. Donc on est amené à chercher justement des intervenants qui peuvent répondre à toutes les questions des enfants.
Alors, donc, il n'y aurait pas de classe, il n'y aurait pas de prof.
C'est ça.
Pour, par exemple, des cours de biologie, ce serait directement dans la nature pour étudier les plantes.
Eh oui, évidemment. C'est vraiment la réalité de la situation qui fait qu'on apprend par soi-même en découvrant. Le livre est bien fait. Maintenant, la découverte proprement dite, aller chercher la réponse à la question, ça n'a pas d'équivalent.
Alors, je pense à d'autres cours, par exemple, comme les maths, l'algèbre, etc., la géométrie. Comment ça se passerait ?
Alors, ça se passe encore une fois par les questions de l'enfant. Tout amène aux mathématiques, tout amène au français. La construction d'un jardin, admettons, on parle de surface, on parle de quantité semée, de quantité récoltée. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est tenu quand même au socle commun de l'éducation nationale jusque 16 ans. C'est-à-dire que tous les manuels éducation nationale seront disponibles à l'enfant. Parce que même si l'enfant est, entre guillemets, on va parler du terme parce que j'ai été contacté par Gaëtan Ferré, en phobie scolaire, peut-être qu'à un moment ou à un autre, cette phobie n'est pas une phobie du livre ou du support d'enseignement. Donc tous les éléments classiques seront à disposition de l'enfant. Maintenant, la manipulation est quand même au cœur du projet prioritaire.
Gaëtan Ferré, c'est ça ?
C'est ça.
C'est qui exactement ?
Alors, c'est Gaëtan Ferré, c'est la représentante des Hauts-de-France de l'association de la phobie scolaire.
Ouais.
Et elle a énormément d'enfants en difficulté. Alors la phobie scolaire, c'est plusieurs choses. Hein. C'est la phobie de la classe, la phobie du nombre, des classes surchargées, la phobie de l'enseignant, du programme, du devoir de résultat. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ce type d'école, il n'y a pas de notation parce qu'il n'y a pas de devoir. Il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de devoir à la maison. L'enfant est chargé de se créer. Et du coup, il gère son emploi du temps comme il l'entend. Tout en sachant, alors pour ceux qui ont un peu peur, l'enfant qui n'est pas curieux et l'enfant qui n'a envie de rien faire, ça n'existe pas. et d'expérience, hein, de par la formation justement, la formation en immersion à l'école créative. C'est vraiment assez hallucinant de voir les enfants aller chercher des réponses sur des sujets qu'on n'imagine même pas. Un enfant de 8 ans peut aller chercher la réponse à un enfant de 14 ans qui, pour se conforter, va chercher la réponse à un adulte. C'est vraiment un concept très très éclatant. Ouais.
Ce projet, il concerne les enfants de quel âge à quel âge ?
Le concept à la base est ouvert aux enfants de 3 à 18 ans. Je pense que pour moi, le départ, je ferai 3 à 16 ans si possible, avec des dérogations. Par exemple, si un enfant de 16 ans vient à l'ouverture de l'école et qu'il se sent bien, l'année prochaine, ce ne sera pas fermé. Voilà, il pourra rester jusqu'à 17 ou 18 ans. Après, voilà, on va parler d'adultes et là, ça sera plus compliqué.
Et de ce fait, ils seraient mélangés les enfants ?
Oui, c'est ça. Alors en fait, il n'y a pas de cloison. Enfin, s'il y a des cloisons, il y a un lieu de travail, il y a un lieu d'activité, il y a un lieu calme. Où c'est un lieu de lecture, de repos pour les petits, un lieu de recherche internet, un lieu où il n'y a pas lieu de faire du bruit justement. Mmh. À côté, par rapport au lieu de travail à côté, où on peut s'exprimer, on peut travailler correctement. L'idée de base, c'est un espace de, pour parler de surface, on va dire de 100-150 mètres carrés, où il y a des petits coins aménagés, comme dans plusieurs classes maternelles, hein, qui sont aménagés, donc un coin repos, un coin travail, un coin détente, un coin ceci, un coin cela. Chaque enfant y va au gré de ses envies. Il n'y a vraiment pas de barrière et les enfants ne sont pas, entre guillemets, parqués. Et ça permet justement la mixité d'âge, la mixité sociale, la mixité, enfin l'échange, c'est vraiment ouvert à ça, ouais.
Et les horaires, ça serait comment alors ? Ça serait des horaires adaptés en fonction des enfants ?
Alors en fait, il y a le modèle que je prévois ou que je préconise, c'est une ouverture, un accueil d'enfants étalé de 8h, on va dire 8h à 9h30, ou 8h30, 10h, peu importe. Ensuite, une présence obligatoire de 10h à 16h et un départ échelonné de 16h à 17h, 17h30. Mmh. C'est comme ça que ça fonctionne à Montauban et pour m'en être rendu compte, c'est vraiment bien, quoi. Ça laisse la liberté aux parents, un peu de... Voilà, c'est confortable.
Et les parents, justement, est-ce qu'ils seraient aussi acteurs
Alors évidemment, parce qu'un parent qui met son enfant dans ce type d'école, donc dans ce concept... C'est un parent qui est revenu du système classique parce qu'il s'est rendu compte que ça ne convenait pas à son enfant. Il existe des parents qui amènent leur enfant, et j'ai rencontré, hein, qui amènent leur enfant dans cette école, dans ce type d'école, et qui donnent les devoirs le soir, qui font travailler l'enfant. Et du coup, on devient hors concept. On ne peut pas faire ça. On ne joue pas deux jeux en même temps. Soit on est dans l'autonomie, on laisse l'enfant responsable de son éducation, soit on intervient et du coup, bah, restons dans le système classique, j'ai envie de dire, avec des règles à tenir, des résultats à donner. Laissons l'enfant être évalué, être jugé et être mal à l'école pour le coup, parce que s'il était là, s'il est venu là, c'est qu'il n'était pas bien dans le système classique.
On est toujours en compagnie de Mathieu Verdet pour évoquer la création d'une école basée sur le modèle américain Sudbury dans l'Arrajois. On va reparler un petit peu quand même de l'éducation nationale. D'abord, oui. Est-ce que vous avez déjà pu discuter avec des enseignants et des enseignantes qui seraient peut-être partie prenante de ce projet, mais qui sont dans un cursus d'éducation standardisée, on va dire ?
Oui, évidemment, parce que mon épouse est ATSEM, agent territorial spécialisé en école maternelle, donc elle travaille dans une école classique. Ma mère est enseignante retraitée, la majorité de mes amis sont enseignants, professeurs des écoles. Et je leur ai exposé le projet. Alors évidemment, le premier accueil, c'est les yeux ronds en disant « Mais qu'est-ce que tu racontes ? On parle c'est de l'utopie. » Et puis, en expliquant les faits et l'espoir de deuxième chance aux enfants qui se déscolarisent, forcément, force est de constater que, bah oui, on adhère à ça en disant « Bah oui, c'est pourquoi pas ? Pourquoi ne pas essayer ? Si ça marche ailleurs, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous ?» Il faut savoir que c'est un modèle quand même qui fonctionne aux États-Unis depuis une soixantaine d'années. Mm-hmm. Là, on en est à 8-10 écoles en France du pur modèle Sudbury. Alors après, on a les alternatives Montessori, Freinet et Steiner, justement, hein, qui permettent un enseignement plus autonome. Mais dans ces écoles-là, on amène quand même un devoir à l'enfant, c'est-à-dire qu'on leur donne du travail proprement dit. Là, non. Dans ce modèle-là, jamais il y a de fiche de devoir. Et c'est la grosse différence avec les pédagogies Montessori et Steiner, c'est que voilà, c'est l'autonomie pure et dure, entre guillemets, et l'enfant travaille, et le facilitateur d'apprentissage doit rebondir sur toutes ces questions, justement, pour l'amener aux connaissances générales du socle commun.
Donc du coup, bah, il n'y aurait pas de notes, il n'y aurait pas non plus cette compétition qu'il y a entre les élèves.
C'est ça.
Comment vous ferez pour évaluer le niveau en fait de l'enfant, savoir si tout est bien compris
Alors, c'est des évaluations par l'observation, par le questionnement, par l'enfant qui travaille de manière autonome. Il y a quand même des productions d'écrits auxquelles on peut avoir accès. Donc, on voit ces productions d'écrits et on peut se forger une idée sur ce qui est compris, acquis, non acquis. Et se référer justement, pour en revenir encore à ce socle commun, là, on a des grandes lignes directrices, et voilà, on se dit qu'on a accès au socle commun, telle compétence a été travaillée, a été comprise, a été acquise, et il y a un logiciel qui s'appelle le logiciel Athéna, qui est commun à toute école Sudbury, qui relève toutes les lignes du socle commun, et en fait le logiciel permet de cocher plusieurs cases, donc travailler, acquis, non acquis, en cours d'acquisition, et c'est ce qu'on doit présenter à l'inspecteur d'académie, parce que même si c'est une école privée hors contrat, elle est inspectée par l'éducation nationale au même titre qu'une école privée classique, même plus inspectée, parce que justement c'est peut-être un modèle qui est pour l'instant inquiétant ou dérangeant ou... Et donc c'est un peu plus inspecté, et du coup voilà, ce logiciel Athéna permet de refléter et de mettre à visu de l'inspecteur tout ce qui a été travaillé par l'enfant. Ouais.
Et quel est le regard de ces instances, on va dire, de l'éducation nationale ?
Alors,
est-ce qu'il est bienveillant ? Est-ce qu'il est méfiant ?
Je suis allé rencontrer Monsieur Courbois, l'inspecteur d'académie. On a eu un petit entretien de une petite heure. Ouais. Donc je lui ai exposé le projet, ensuite il m'a exposé ses idées, à savoir que lui, son devoir de réserve, c'est-à-dire qu'il est quand même affilié à l'éducation nationale proprement dit, c'est-à-dire qu'il ne peut pas émettre d'avis de par son rôle sur ce concept. Maintenant, il m'a surtout mis en garde sur les capacités d'accueil, d'encadrement, les normes ERP qui sont hyper strictes.
C'est une norme de sécurité, c'est ça.
Ouais, c'est ERP, c'est enseignement recevant du public. Donc ERP 5 au rez-de-chaussée, ERP 4 à l'étage, les normes d'encadrement, autant d'adultes pour autant d'enfants de tel âge à tel âge. Bon, ça je savais, hein, c'est un projet que je travaille depuis bientôt un an. Donc j'étais paré à tout ça. Maintenant voilà, il est pas du tout fermé au concept, parce que encore une fois, on parle d'enfants qui sont en mal-être avec le système classique. Du coup, pourquoi pas, il y a des écoles de la deuxième chance, il y a plein d'alternatives, et du coup, c'est une autre alternative à l'enseignement classique.
Est-ce que vous avez peut-être constaté que des enfants qui sortaient du côté standard de l'éducation nationale et des classes conventionnelles qui venaient justement vers ce genre d'école, et le contraire, des enfants qui finalement repartent après dans des classes, on va dire, conventionnelles?
Oui, donc ça c'est possible, le voyage est possible dans les deux sens, hein. Quelqu'un qui quitte l'école normale et quelqu'un qui revient dans le cycle classique, c'est possible, parce que c'est pas évident que ça convienne à tout le monde, même si au premier abord on est intéressé par le concept et on se dit évidemment ça va convenir à mon enfant, il est possible que ça ne convienne pas. Donc revenir dans le système classique, il n'y a pas de barrière, c'est juste une petite évaluation par rapport au programme de l'année qui va être suivi, c'est-à-dire un enfant de CM1 va être testé sur les connaissances globales de CM1, enfin un petit peu en avant même, de CM1 pour intégrer le CM2. Et si jamais il y a quelques petites lacunes, il y aura une possibilité de remise à niveau. Maintenant, des lacunes, même dans le système classique, tout enfant de CM1 n'a pas les compétences forcément acquises pour aller en CM2. Donc on en revient avec les nouvelles propositions du gouvernement qui parlent de remise en place, du redoublement, tout ça, parce qu'ils se rendent bien compte qu'évidemment, passer d'une classe à une autre en n'ayant pas toutes les connaissances, c'est forcément compliqué pour la suite, quoi.
Ouais, donc justement, en parlant des réformes du nouveau gouvernement qui sont en cours pour l'instant, le retour à 4 jours... Et puis plus de devoirs à la maison, donc ils proposent aussi des choses un petit peu alternatives, hein, de ce qui se passait avant. Votre regard là-dessus, est-ce qu'il ne s'inspirerait pas peut-être de ce genre de projet?
Mais je pense que M. Macron va me piquer mon projet. mais non, plus sérieusement, c'est tout à fait ça. Le 4 jours et demi pour le respect du rythme de l'enfant, je pense que c'est une idée intéressante. Mais ça a été mal mis en place, mal pensé. On a voulu copier le modèle allemand et je pense que, excusez-moi le terme, mais on s'est planté. le fait que les enfants démarrent toutes les journées à la même heure, il y ait des temps d'activité périscolaire qui les amènent jusqu'à 17h. En fait, ils ont 5 journées longues au lieu de 4, 4 journées et demie. Et résultat, la coupure du mercredi est pour moi, je pense, utile et indispensable jusqu'à un certain âge. Après, évidemment, des enfants qui commencent à avoir 9, 10 ans, gèrent la fatigue différemment, sur l'heure du coucher, sur le quotidien. Maintenant, je pense que pour les petits, ça n'avait pas de bien fondé. Maintenant, voilà, le concept de mon projet est basé à la base sur 4 jours, avec, comme on disait tout à l'heure, un accueil échelonné, une présence obligatoire de telle heure à telle heure et un départ échelonné également, avec voilà, le mercredi, samedi, dimanche de libre et pour en revenir à votre question, les devoirs le soir, évidemment, les devoirs, ça fait un moment qu'ils sont plus obligatoires. Donc, à parents responsables, le fait de faire les devoirs aux enfants et de les suivre. Maintenant, le fait qu'ils ne soient plus obligatoires, ça veut quand même dire que quelqu'un s'est rendu compte que c'était pas forcément formateur. 7 heures assis à table à apprendre et encore le soir. Enfin, moi, je sais que pendant ma scolarité, ça m'a pas forcément plu tout le temps. Et donc, voilà, on en vient enfin à un gouvernement qui se pose pour l'instant les bonnes questions sur le bien-être de l'enfant pendant sa scolarité. Et pour l'instant, j'ai un peu d'avance sur eux.
Vous cherchez bien évidemment un local.
Oui.
Est-ce que vous avez rencontré des élus, je pense à la communauté urbaine d'Arras, ou des gens qui pourraient vous aider à trouver ce local pour votre projet ?
Alors, la communauté urbaine d'Arras, pour commencer par elle, j'avais un rendez-vous prévu le 2 juin qui a été annulé de dernière minute par un impératif plus important, moi je comprends. J'ai un nouveau rendez-vous avec le directeur de cabinet de Monsieur Rapneau, un rendez-vous duquel j'attends beaucoup. J'ai rencontré Monsieur Arthur Barr, directeur de cabinet de Monsieur Le Turc. J'ai rencontré Monsieur Le Turc, j'ai rencontré le maire d'Achicourt, qui est ancien inspecteur et enseignant. Donc, les gens que j'ai rencontrés sont très ouverts et réceptifs au concept. Ils comprennent évidemment le besoin de l'enfant, notamment Monsieur Le Turc, qui est en termes d'éducation assez progressiste, parce qu'il y a énormément de lignes de mon projet qui se rapportent à leur projet territorial d'éducation. Énormément, c'est même assez bluffant. Et donc, ouvert au concept, évidemment, maintenant, en termes de locaux, c'est hyper compliqué parce que j'aurais besoin d'un grand espace, comme on disait tout à l'heure, pour qu'il n'y ait pas de cloison, pour que tout le monde soit ensemble et en échange. Avec, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'appel à l'extérieur, c'est-à-dire, centre-ville, ce n'est pas possible, du macadam, des voitures, je ne peux pas. Moi, il me faut de l'espace vert, il me faut un bois, entre guillemets, enfin, un secteur boisé, une petite rivière, pourquoi pas, un jardin, l'enfant qui a envie de faire de la culture, du jardinage ou de la permaculture, ben, on ne peut pas faire ça dans une jardinière. Voilà. Mmh. Il faut vraiment de la place pour essayer d'exploiter et de répondre à toutes les questions de l'enfant. Voilà.
Un petit coin, cité nature, ce serait pas mal finalement.
La cité nature. Alors moi, ouais. Moi, mon rêve, c'est la citadelle.
Citadelle.
Avec tout autour et en face les petites citadines électriques, là, respect de l'environnement, enfin, ça m'éclate ça.
Bon, eh ben, l'appel est lancé. Donc,
j'y crois.
Si on veut vous contacter, si votre projet intéresse quelqu'un, on fait comment ?
Alors, il y a une page Facebook, parce que Facebook, ça devient incontournable, hein, qui s'appelle Schola Liberum, donc S majuscule C-H-O-L-A et Liberum. L majuscule I-B-E-R-U-M. Sinon.
Qui veut dire école libre, hein, si je me trompe.
Oui, c'est ça. Hein, c'est du latin, ouais. Et donc là-dessus, il y a toutes les grandes lignes du projet. Il y a mes coordonnées, il y a mon mail, mon numéro de téléphone. Moi, je réponds à tout le monde, Messenger, enfin peu importe, tout ce qui est moyen de communication actuel.
C'était un entretien avec Mathieu Verdet. On évoquait avec lui son désir de créer une école alternative basée sur le modèle américain Sudbury et qui prône l'autonomie des enfants afin qu'ils construisent eux-mêmes leur programme éducatif et leur emploi du temps.